Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Haloud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 23 juin 2014. Bienvenue à vous. Le Grand Dialogue du jour est consacré à l'état des lieux du respect des droits de l'enfant. Les trois volets du débat, le point sur le respect du droit des enfants, le travail des enfants et enfin le droit des enfants et le poids de la tradition. Nos invités, Lala Ouangara, présidente du Parlement des enfants du Mali, Francis Zako, point focal à l'UNICEF, et un autre parlementaire, Abdoulaye Cissé, premier vice-président du Parlement des enfants. Merci à vous pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Peting Diara est à la technique. Les droits de l'enfant sont une priorité politique affichée au Mali où la moitié de la population a moins de 18 ans. Ainsi, la constitution adoptée en 1992 proclame dans son préambule la détermination du peuple malien à défendre les droits de la femme et de l'enfant. Le Mali a co-présidé le sommet mondial sur les enfants en 1990 et a été l'un des premiers pays à avoir ratifié la convention relative aux droits de l'enfant. Il a également ratifié les principaux instruments internationaux comme ceux de l'Organisation internationale du travail. Cependant, les politiques publiques menées pour la protection et la promotion des droits de l'enfant se heurtent à de nombreux obstacles. Pauvreté, analphabétisme, persistance de pratiques coutumières, manque de moyens de l'État et des collectivités territoriales. Malgré les différents programmes mis en œuvre à l'investissement de la société civile et des organisations non gouvernementales maliennes ou étrangères, la situation des enfants reste difficile dans plusieurs domaines. Accès à la santé, éducation ou encore travail des enfants. Alors aujourd'hui, combien d'enfants avons-nous au Mali et combien d'entre eux ont leurs droits bafoués, M. Zako, de l'UNICEF?
Alors merci, je commencerai par remercier la radio Tamani pour l'opportunité qu'elle donne à l'UNICEF d'aborder la question des droits de l'enfant, qui est une question cruciale et qui est au centre des préoccupations. À titre de chiffres, notez seulement qu'au Mali, les enfants représentent plus de la moitié de la population. D'ici l'horizon 2019, on sera à peu près à 60% d'enfants au Mali, ce qui est considérable en termes de défis, en termes de réponses pour le gouvernement, mais en termes aussi de préoccupations qui sont vécues chaque jour par les enfants et pour lesquelles il y a encore beaucoup d'actions à mener.
Alors, Lala Ouangara, vous êtes la présidente du Parlement des enfants. Quels sont les droits de vos parlementaires ou bien des enfants tout court du Mali qui ne sont pas assez respectés? Les plaidoyers portent sur quoi aujourd'hui?
Merci pour la question. Pour répondre, les droits des enfants de nous au Mali et du monde entier, c'est tout d'abord l'accès à l'éducation de qualité surtout. L'éducation, la santé, la survie, la participation de l'enfant sont entre autres les droits fondamentaux d'un enfant. Et déjà, pour parler au Parlement des enfants, déjà, nous avons 4 groupes parlementaires qui vont dans ce sens-là. Et aussi l'état de plaidoyer, comme vous le dites au Mali, c'est que nous essayons de faire des plaidoyers sur l'application de ces droits. Vous avez suivi lors de la journée de l'enfant africain que le sujet portait sur l'éducation et nous avons eu à interpeller ou bien si je peux me permettre de dire que nous avons fait des plaidoyers à l'endroit des autorités, nous avions même le président dans la salle sur la qualité de l'éducation et surtout ces derniers temps notre pays n'a pas à se flatter en matière d'éducation aujourd'hui. On a vu comment les examens se sont passés. Nous faisons des plaidoyers sur le mariage précoce des enfants, sur la mendicité des enfants et beaucoup de fléaux auxquels sont confrontés les enfants aujourd'hui au Mali.
Alors, est-ce que, Abdoulaye Cissé, vous êtes vice-président du Parlement des enfants, est-ce que vous faites écho des situations que les enfants du Nord traversent actuellement? Est-ce qu'au Parlement, vous en parlez, vous le dites au cours des plaidoyers?
Oui, merci à vous. Et il faudra également savoir que les enfants du Nord sont également bien représentés au Parlement, puisque le Parlement réunit tous les enfants de Kai à Kidal. Donc on travaille avec eux et qui sont sur le terrain, s'imprègnent vraiment de la situation dont ces enfants vivent et partagent avec nous alors, au sein du Parlement. Donc il y a des discussions en cours et nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons organiser des activités de plaidoyer en faveur de nos autorités compétentes pour que tous ces enfants, on a jusqu'à présent, un certain nombre n'arrivent pas toujours à avoir accès à l'éducation, qui ne partent toujours pas en classe malgré des efforts consentis par les organisations internationales, mais quand même les réflexions sont en cours pour plaider en leur faveur, pour qu'ils accèdent tous vraiment à l'éducation.
Alors, Monsieur Zako, à l'UNICEF, comment est-ce que vous collaborez avec le dispositif d'encadrement du Parlement ? Tous les enfants ne parlent pas de la même manière que les parlementaires que nous avons aujourd'hui. Comment est-ce que vous collaborez avec cette organisation et son encadrement ?
Merci. Alors, je voudrais déjà préciser que la collaboration de l'UNICEF s'inscrit de façon officielle avec les institutions gouvernementales. Le Parlement, on a la chance ici au Mali que le Parlement soit rattaché à la direction qui assure la tutelle des questions de protection au niveau du gouvernement, qui est la Direction nationale de la protection de l'enfant. L'action pour l'UNICEF, c'est vraiment d'accompagner toutes ces initiatives basées sur un principe fondamental qui est le droit à la participation de l'enfant, de donner l'opportunité aux enfants d'exprimer leur point de vue sur tout ce qui les concerne. Et quand on dit tout ce qui les concerne, c'est vraiment tout ce qui les concerne sans restriction. Bien sûr, en jugeant la capacité pour les enfants de pouvoir l'exprimer, en tenant compte d'un certain nombre d'environnements, notamment l'environnement culturel, mais aussi en bénéficiant des appuis. La participation des enfants ne peut être une réalité que si les institutions qui ont ce mandat, notamment en premier le gouvernement, mais l'UNICEF et ses partenaires, si seulement un accompagnement est donné à ces enfants. Je crois que l'occasion du 16 juin exprime bien l'appui constant de l'UNICEF, donc, qui a permis de donner tout l'accompagnement technique dans les préparatifs, dans l'encadrement des enfants, mais aussi progressivement de les amener à cette analyse de la situation, des problèmes qu'ils vivent. Très bientôt aura lieu à Kita, un atelier qui va permettre aux enfants de se réunir, tous les enfants des différentes régions du Mali, pour aborder un certain nombre de questions desquelles vont découler un plan d'action avec des questions prioritaires et sur lesquelles l'UNICEF continuera de donner son appui pour que la voix des enfants soit entendue, parce que très peu entendue à ce jour.
Alors, parmi les droits de l'enfant, il y a l'éducation. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui schématiser l'implication de l'UNICEF dans le domaine de l'éducation au Mali, l'éducation des enfants?
Alors, l'implication de l'UNICEF se situe à plusieurs niveaux. D'abord, appui institutionnel. Donc, il s'agit d'influencer la politique au plus haut niveau décisionnel. Et c'est le travail que mes collègues de l'éducation font chaque jour avec leur interface qui est le ministère de l'Éducation nationale pour créer un environnement qui soit favorable en termes d'accès, en termes de maintien, mais en termes de lutte aussi contre les disparités de genre, de permettre aux jeunes filles d'avoir accès à l'éducation, de permettre à certaines couches défavorisées, soit du fait de leur culture ou d'un handicap, d'avoir accès à l'éducation. Il y a également l'appui, je dirais, matériel et logistique. Donc, il y a tout le processus d'accompagnement directement aux écoles à travers l'équipement des établissements scolaires. Mais vous l'avez vu aussi à la faveur de la crise, à travers l'appui direct aux enfants qui s'est traduit notamment par la distribution de kits scolaires, qui adresse aussi la question de la vulnérabilité qui a été induite par la crise et qui a affecté beaucoup d'enfants. Donc, c'est un dialogue permanent. Beaucoup de défis, il faut le dire. Et beaucoup de facteurs qui entravent l'école, qui justifient aussi que la protection de l'enfant travaille en étroite collaboration avec l'éducation pour aborder les questions comme le mariage précoce, qui sont un frein à l'éducation pour les filles, les questions d'excision, qui sont un facteur de déscolarisation, les questions de violence faites aux filles, violence sexuelle, etc. Et donc voilà un peu comment se traduit l'appui de l'UNICEF, qui se formalise vraiment dans cette collaboration institutionnelle, bien sûr, qui implique aussi la société civile pour des actions pour lesquelles l'État délègue alors un certain nombre de fonctions. On veut parler de tout ce qui est mobilisation communautaire, de sensibilisation des familles et j'en passe.
Alors Lala Ouangara, vous venez de prendre les rênes du Parlement des enfants. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un progrès dans le respect du droit des enfants au Mali?
Bah écoutez, un progrès comme ça, bon, on peut se dire qu'il y a un certain progrès, oui, qui s'est passé, mais c'est loin des attentes que nous avons, parce qu'en termes de progrès, il faut essayer déjà d'évoluer sur tous les plans et l'application des droits de l'enfant au Mali. Certes, il y a eu des efforts par le gouvernement, mais beaucoup reste à faire. Quand on regarde les enfants talibés aujourd'hui, mais ce n'est pas un secret pour quelqu'un, tout le monde est au courant, à tout bout de rue, dans chaque rue, on rencontre les enfants mendiants, les enfants talibés qui sont là avec des boîtes à chercher des jetons. Et lorsque ces enfants n'ont pas les jetons, sont infligés à des sanctions de flagellation et ce qui s'ensuit. Quand on regarde l'éducation au Mali, mais il faut le reconnaître, l'éducation n'est pas de qualité. Nous avons des enseignants très souvent qui n'ont même pas les qualités requises pour pouvoir transmettre le savoir aux enfants. Quand nous regardons le mariage précoce, l'État, l'Assemblée nationale ratifie et disons et élabore le code de la famille et des personnes âgées. Dans ce code, il est autorisé à l'enfant de se marier à 16 ans. Pourtant, le Mali a bel et bien ratifié la Convention internationale relative aux droits de l'enfant qui, dans laquelle l'enfant est tout être âgé de moins de 18 ans. Donc ça va en contradiction. Comment est-ce que dans le code même du Mali, dans la charte du Mali, on dit que l'enfant peut se marier à 16 ans? Et quand on regarde tous ces facteurs-là, force est de reconnaître qu'il y a eu certes des progrès, mais qui sont loin de ce qui est désirable en matière d'application des droits de l'enfant au Mali. Il reste beaucoup à faire, sincèrement.
Alors, Abdoulaye Cissé, vous êtes également membre du Parlement des enfants. Qu'est-ce que ça fait quand on sait que la nuit, on va se coucher, sachant qu'on a un frère qui dort dans la rue sans aucun soin? Qu'est-ce que ça fait?
Laissez-moi vous faire savoir que ça fait vraiment mal au cœur de savoir que toi, tu dors tranquillement. Tantôt, il y a un de tes camarades qui est dans la rue, qui n'a pas un toit pour dormir, qui est exposé à tout genre de maladies, à tout genre de dangers, et également qu'au réveil, il n'aura rien vraiment à manger. Ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. Et personne ne souhaite être à la place de ses enfants, mais il faudra savoir qu'au sein du Parlement, nous sommes en train vraiment de concentrer des efforts pour qu'en fait, vraiment, ces enfants puissent rejoindre vraiment des centres d'écoute communautaire et qu'ils ne vivent en fait plus dans les rues.
Alors Lala, est-ce que des actions, vous menez des actions sur le terrain avec l'aide des partenaires pour permettre à ces enfants-là de trouver un abri, d'avoir quelque chose à manger?
Bien sûr, nous menons des actions avec plusieurs partenaires et c'est le lieu de dire que notre premier partenaire ici, c'est l'UNICEF qui est déjà présent sur la table. Nous faisons des activités à plusieurs partenaires et je salue déjà l'initiative de certains partenaires qui sont toujours avec nous et qui œuvrent des nuits et jours avec nous pour la promotion de la protection des droits de l'enfant au Mali, notamment c'est le Children and World Vision. Et ces partenaires, nous savons, nous ne sommes pas à vrai dire une structure technique, c'est à ces partenaires d'essayer de faire tout pour que ces enfants puissent sortir de la rue, essayer de travailler avec la Direction nationale de l'enfance, qui est une structure technique, travailler avec le ministère de la promotion, mais cela ne nous est pas assigné de faire des activités en temps plein pour essayer de donner des abris aux enfants ou ce qui s'ensuit. En tout cas, nous sommes là pour faire des plaidoyers, pour inciter à un changement, pour pousser les leaders, les autorités et à poser des actions, mais pas en tant que structure technique ou faire des activités techniques.
Deux secondes de pause et nous reprendrons le cours de ce débat avec comme thème le travail des enfants.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondel.
L'URTEL, c'est l'union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foco, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tchessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti, sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Issaber de Niafunké, 96.3 MHz. Merci encore une fois de nous être fidèles, une fidélité que vous, les auditeurs, nous accordez aujourd'hui à nos 24 radios partenaires. Comme vous le savez, notre débat du jour porte sur l'état des lieux du respect du droit des enfants. Cette deuxième partie sera consacrée au travail des enfants. Nos invités, Lala Ouangara, présidente du Parlement des enfants du Mali, Francis Zako, point focal UNICEF, et un autre parlementaire, Abdoulaye Cissé, premier vice-président du Parlement des enfants. Alors, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui le travail des enfants, Francis Zako de l'UNICEF?
Alors, je n'aurais pas la prétention de donner une définition classique, mais on peut concevoir le travail des enfants comme toute activité physique ou intellectuelle qui est préjudiciable au développement psychique, psychologique et physique d'un enfant.
Alors, allez-y.
Oui, alors, enfant est entendu au sens de la convention comme tout individu de moins de 18 ans.
Alors, Lala Ouangara, jusqu'à quel âge on reste enfant?
À 18 ans, bien sûr. Il vient de dire que...
Vous n'attendez pas 18 ans pour quitter le Parlement?
Si, à 18 ans, on quitte le Parlement et on n'a plus droit à un mandat. Les parlementaires, pour le dire, sont âgés de 12 à 18 ans.
Ok, alors que dit la loi sur justement ce volet du travail des enfants? Peut-être vous, Francis?
Oh, la loi réprime tout simplement le travail des enfants, comme je l'ai dit, pris dans la définition mais plus élaborée d'un point de vue juridique. Donc il y a une certaine catégorie d'activités qui sont interdites aux enfants en fonction des âges, en fonction des risques qui sont liés à ces activités-là. Je crois qu'il y a la précision qu'il faut faire et qui constitue le plus souvent un amalgame autour de la question du travail des enfants. Il ne faut pas confondre le travail socialisant, qui est une forme éducative, et toutes les activités, comme je l'ai dit, qui sont préjudiciables aux enfants. Faire porter un enfant de 6 ou 7 ans un sac de 50 kilos, franchement, ça passe de commentaires. Par contre, il est admis que les enfants, quand ils viennent de l'école, ils puissent aider la maman à la maison à faire le petit ménage, le papa à faire ouvrier, à faire ses petites activités. Bien sûr, à condition que celles-ci ne mettent pas en péril leur droit à l'éducation et bien sûr tous les autres droits dont ils jouissent.
Alors, y a-t-il les garde-fous nécessaires aujourd'hui au Mali pour éviter que ça n'aille dans l'autre sens?
Garde-fous, oui. Il y a la loi qui, malheureusement, reste encore très peu appliquée. Et ça, c'est le constat aujourd'hui de le dire. Beaucoup de dispositifs et... Au-delà du travail, le Mali est l'un des pays qui a ratifié vraiment un certain nombre de conditions et même en interne qui dispose d'un cadre juridique assez bien élaboré. L'un des défis, c'est l'application de ces textes. L'un des grands défis, il faut le dire, l'application de ces textes. Il y a également tout le travail à base communautaire. Comment concevoir aujourd'hui qu'une petite fille de 5 ans se retrouve dans la rue en train de vendre de l'eau alors qu'elle devrait être à l'école? Au nom de quoi? Bien souvent, on utilise la pauvreté comme argument, mais au nom de la pauvreté, les parents peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et je crois qu'il appartient à l'État de prendre des dispositions pour faire appliquer les dispositions qui, comme je l'ai dit, existent au niveau du Mali.
Alors, Lala Ouangara, présidente du Parlement des enfants, pourquoi est-il si difficile de faire respecter la loi?
Les mentalités, je pense. Les mentalités, c'est un gros défi au Mali. Parce que la population rurale, quand on essaie de voir, est plus nombreuse que la population urbaine. Et cette population rurale est attachée aux mœurs, aux coutumes, aux traditions, que c'est un peu difficile, même un peu sensible d'aborder ce problème de travail des enfants, parce qu'ils se disent que nous, déjà, en tant qu'enfants, comment se fait-il que, en tant que leurs parents, en tant que leur père, leur mère, on vienne leur parler de travail des enfants? Quand est-ce qu'on est né? Pourtant, ce travail, ils ne doivent pas l'interpréter comme ça. Quand on parle de travail des enfants, tonton Francis vient de le dire tout à l'heure, quand on parle de travail des enfants, ça a un aspect plus abusif, un travail très abusif des enfants. Sinon, nous, en tant qu'enfants parlementaires, on a certes des droits, mais aussi des devoirs. Quand on est à la maison, les jeunes filles, on aide nos mamans à faire les petites tâches ménagères, à faire parfois la lessive, à les aider à cuisiner. Les garçons lavent les voitures de leurs parents ou font les petites courses. Mais exploiter l'enfant toute une journée, que ce travail empêche l'enfant d'aller à l'école, il y a des défis et je pense que la population urbaine et rurale est plus majoritaire de se faire dans les villages, ce n'est un secret pour personne, que là-bas les enfants travaillent et rares de ces enfants vont à l'école. Donc c'est ça le gros défi.
Alors Abdoulaye Cissé, si on vous demandait de faire un plaidoyer aujourd'hui auprès des parents qui malheureusement pratiquent cette méthode aujourd'hui, quel serait ce plaidoyer?
Moi, à mon niveau, j'inviterais ces parents à ce qu'ils sachent que l'avenir d'un enfant se trouve vraiment à l'école. Ce n'est pas dans la rue, malgré qu'ils utilisent comme voile la pauvreté pour conduire ses enfants à aller dans les rues et vendre, faire autre chose. Et qu'ils comprennent en fait que pour que leurs enfants puissent un jour les prendre en charge, il faut les laisser aller à l'école, apprendre. Et quand ils auraient atteint l'âge de la majorité, ces enfants seraient dotés des qualités nécessaires pour pouvoir travailler. Et ça ne va jamais tarder au fait. Donc l'enfance, laisser les enfants vraiment profiter de leur enfance et le moment venu, ces enfants vont travailler.
Alors avant de poursuivre ce débat, nous allons tenter de synthétiser la situation avec chiffres à l'appui. Parmi les enfants oubliés, ceux qui vivent dans les rues des grandes capitales, à Bamako, près de 6000 enfants vivent dans la rue. On les appelle les talibés. Salimata Ndao.
Ils sont exposés à tout, explique Zachary Adam, chef du bureau UNICEF du Mali. Ils souffrent de toutes sortes de maladies, sont exposés au risque de violence, de viol, de prostitution. Garçons pour la très grande majorité, mais les filles ne sont pas épargnées. Ils ont le plus souvent entre 10 et 18 ans. Ils ont fui des violences physiques ou verbales subies dans leur famille ou à l'école religieuse où des maîtres les forcent à mendier et les maltraitent. Ces enfants des rues sont originaires du Mali à près de 90%. Leur gagne-pain est fait de mendicité, mais certains font de petits métiers de rue, cireurs de chaussures, laveurs de vitres, porteurs de bagages. Les filles, elles, font souvent du petit commerce de fruits et légumes sur le marché ou le bord de route. La moitié d'entre elles a recours à la prostitution pour survivre. Aujourd'hui au Mali, le taux net de scolarisation est de 61%. Atteindre 100% permettrait aussi de vaincre le problème des enfants des rues, explique Zachary Adam. Si le SAMU social avec lequel travaille l'UNICEF fait des maraudes dans les rues pour venir en aide aux enfants, l'UNICEF de son côté s'attelle à la prévention du phénomène. Il s'agit selon l'organisation de renforcer la capacité d'accueil des écoles existantes, d'améliorer l'offre scolaire en proposant notamment des cycles réduits, adaptés, qui permettent aux plus grands de rattraper les années de scolarité manquées.
Alors, enfant talibé, profession mendiant, est-ce que la mendicité est une forme de travail?
Absolument, la mendicité s'inscrit au titre des activités reconnues comme activités relatives au travail des enfants. Juste pour préciser et pour revenir sur la question des enfants talibés, les indicateurs montrent au Mali qu'on a un enfant sur trois en situation de travail. Selon la dernière enquête mixte qui a été réalisée par le gouvernement avec l'appui technique de l'UNICEF, c'est vraiment une réalité. La question des enfants talibés pose la question de la responsabilité des parents à plusieurs titres, derrière laquelle beaucoup d'amalgames sur l'éducation éducative à base religieuse et l'exploitation des enfants. Je crois que c'est un débat qui n'est pas nouveau et sur lequel il faut continuer de réfléchir, mais surtout, comme je l'ai dit, d'apporter l'interpellation au plus grand titre aux parents. On trouve inconcevable que des parents soient peinards assis chez eux pendant que leurs enfants soient dans la rue exposés pour tirer quel bénéfice, à qui profite. On n'est même pas convaincu que ces bénéfices, cet argent que ces enfants reçoivent dans la rue, leur servent vraiment. Regardez comment ils sont tenus, ces enfants. Physiquement, psychologiquement, c'est beaucoup d'inquiétude. À vrai dire, la question va plus loin. La question devrait s'inscrire dans, au-delà de ce que nous faisons, que j'ai l'habitude d'appeler des actions de sapeurs-pompiers. Je crois qu'il faut voir la question de façon plus profonde. Et je crois que c'est la dynamique dans laquelle l'UNICEF est en train de s'inscrire en appuyant le gouvernement à élaborer des politiques sociales pour adresser les questions de vulnérabilité, pour réduire l'indigence des familles. Mais effectivement, comme je le dis, il y a tout un travail de conscientisation et aussi de répression. Il n'est pas rare de voir que là où il y a un poste de police, on a 10 ou 15 enfants, au vu au sud de tout le monde. Et vraiment, c'est une question épineuse. La solution magique, elle n'existe pas. Il y a eu beaucoup d'expériences dans beaucoup de pays. On a connu ce qui s'est passé au Brésil avec l'escadron de la mort. Mais effectivement, c'est une question sur laquelle il faut revenir, qui trouve toute son enracinement sur l'incapacité aujourd'hui du système éducatif à accueillir tous les enfants. Mais là également, je crois que malgré les efforts et l'opportunité qui est offerte à certains parents de mettre les enfants à l'école, il y a ce choix-là qui est fait. Et alors, je pense qu'on devrait pouvoir l'inscrire au titre des questions actuelles, des débats récurrents, et porter ces questions de protection. Je voulais vraiment revenir sur le remerciement que j'ai adressé à l'entame de mon propos, de mettre les questions de protection au centre du débat. Et c'est la seule façon de marteler et de faire prendre conscience à tout le monde, chacun à son rôle, de responsabilités qui sont les siennes en tant que porteur d'obligations pour les enfants. En général, les questions d'enfants ne sont abordées sous le titre que des faits divers dans les dernières pages de journaux. On souhaite que
ce soit à la une.
À la une des journaux, la question de la protection de l'enfant d'hier à aujourd'hui. Où en sommes-nous? Quels sont les grands débats?
Ok. Alors, Lala Wangara, présidente du Parlement des enfants, est-ce que la crise qu'a connue le Mali a contribué à détériorer la situation du travail des enfants au Mali?
Bien sûr. Parce que la crise déjà a joué sur les conditions économiques et dans chaque famille. Déjà, ce n'est pas un secret. Ça a joué sur beaucoup de personnes, les opérateurs économiques, les personnes qui travaillent avec la main d'œuvre, qui font des travaux saisonniers. Mmh. Et ça a joué sur la grande partie de la population. Et certaines personnes, pour essayer de fuir à cette crise, ce manque d'argent, ce manque de moyens, exploitent les enfants. Bien sûr que ça contribue au travail des enfants. Et même dans les régions du Nord, ce n'est pas un secret. Déjà au Nord, il y avait une paupérisation et maintenant, ça s'ajoute avec les problèmes de manque d'importation ou de beaucoup de facteurs. Les assaillants qui sont là-bas, certains exploitent les enfants, d'autres même poussent les enfants à des activités sexuelles et c'est eux qui récoltent le bénéfice de ces travaux-là. Moi, je pense que la crise, je le pense même pas, c'est un fait qui est là, la crise a augmenté le taux d'enfants travailleurs.
Alors, comment faire aujourd'hui, Abdoulaye Cissé, pour que les enfants ne travaillent plus au Mali?
Donc, nous allons d'abord inviter les parents, n'est-ce pas, à leur faire comprendre, à passer par des activités de sensibilisation. Et je reviens toujours sur ce que j'avais dit, leur faire comprendre que l'avenir d'un enfant se trouve à l'école, donc leur laisser aller étudier et dans l'avenir, ces enfants-là pourront travailler. Donc, je les invite vraiment à comprendre que l'enfant, c'est vraiment un moment unique. C'est le moment où l'enfant pourra vraiment apprendre. Donc, comme on a l'habitude de le dire, on ne redevient jamais enfant. Donc, laissez vraiment ces enfants profiter de leur enfance, apprendre. Et dans l'avenir, ces enfants pourront bel et bien travailler.
Alors, quand vous dites aux parents, n'attendez pas tout de suite un fruit, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Juste leur faire savoir que l'enfant, comme je le disais, il est appelé vraiment à grandir. Donc, ne pas utiliser l'enfant pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Donc, c'est une manière vraiment d'utiliser l'enfant à des fins économiques propres aux parents. Donc, vraiment, ils ont mis les enfants au monde, vraiment leur laisser l'opportunité d'apprendre et tôt ou tard, ces enfants apporteront leurs fruits.
D'accord. Alors, nous allons quelques secondes en pause avant de poursuivre avec le débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Vous pouvez écouter cette émission en direct sur notre site web www.studiotamani.org. Le Grand Dialogue, c'est l'espace de débat du Studio Tamani qui réfléchit sur des sujets du quotidien de vous, Maliens, du nord au sud du pays. Pour aujourd'hui, le sujet, c'est l'état des lieux du respect des droits des enfants. Cette troisième partie est consacrée aux droits des enfants et le poids de la tradition. Nos invités, Lala Wangara, présidente du Parlement des enfants du Mali, Francis Zako, spécialiste protection enfants à l'UNICEF. Un autre parlementaire, Abdoulaye Cissé, premier vice-président du Parlement des enfants. Le respect du droit des enfants est-il compatible avec la tradition, Monsieur Zako?
Alors, je dirais que la question ne devrait pas se poser. On a tous le plaisir d'abord de connaître une grossesse, la grossesse d'une mère.
Tous, pas les hommes.
Oui, bien sûr, pas les hommes. On a tous le plaisir de connaître la naissance d'un enfant. On ne peut pas comprendre comment on ne peut pas maintenir ce plaisir à donner toutes les chances à nos enfants de grandir dans un environnement qui les protège. Beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, fuite de responsabilité, insouciance, inconscience, autant de questions qu'on peut se poser.
Ok. Alors, Lala Wangara, est-ce que le respect des droits de l'enfant sont compatibles aujourd'hui avec la tradition?
Non, ça ne va pas avec la tradition.
Il y a des contraintes?
Oui, il y a des. Parce que c'est vrai que certains voient d'un côté où nous avons des esprits occidentaux et que c'est les occidentaux qui nous ont mis ces idées dans la tête. Ce n'est pas vrai. Essayons de voir seulement, mesurons le pour et le contre de ces violations des droits de l'enfant et on verra que, occidentaux ou pas, ce sont des choses qui ne sont pas bien, des flux qui ne sont pas bien dans la société. C'est vrai que ce n'est pas pour réfléchir en tant que des blancs comme des occidentaux, mais il est clair que ça ne va pas avec les traditions et les coutumes, certains droits. Sinon, les traditions même reconnaissent certains droits. Et je connais des personnes qui sont traditionnalistes, qui sont des personnes qui respectent beaucoup la tradition, mais qui ne violent pas les droits de l'enfant. Mais sur un côté, sur un autre côté, la tradition joue beaucoup sur les droits de l'enfant. Prenons les pratiques traditionnelles néfastes, les trucs, et les scarifications, l'excision, le mariage précoce. Ce sont des pratiques traditionnelles qui vont en contradiction avec les droits de l'enfant. Et il y a dans certaines traditions, dans certains milieux même, on interdisait aux enfants, aux filles, dans certains villages, quand ça se passait il y a longtemps, quand un enfant venait au monde et que c'était une fille, on tuait cet enfant. On préférait plutôt les garçons. Mais au fil du temps, ils ont vu que quand on tuait toutes les filles, qui allait reproduire ces mêmes garçons-là? Ce sont les filles. Et les traditions, je pense, c'est pas pour rejeter les traditions aujourd'hui qui part sans la tradition, se perd complètement. Tous les pays développés vont avec la tradition. Regardons le cas du Japon. Le Japon, ils sont à la tête de la technologie de pointe, mais ils sont toujours restés samouraïs. Tous les pays vont que la couture, les traditions vont avec le développement. Mais il faut essayer d'analyser, voir le pour et le contre. Et il y a certains points qui ne vont pas forcément avec les droits de l'enfant. Laisser ce mauvais côté et avancer avec ceux qui peuvent être constructifs, productifs pour le Mali.
Alors, le droit des enfants, est-ce que cela est compatible avec la tradition, Abdoulaye Cissé? Est-ce que le droit des enfants peut résister à la pression familiale?
Oui, de mon point de vue, je dirais que les droits des enfants peuvent résister à la pression familiale. C'est juste une question vraiment d'information et de sensibilisation. Il faudra montrer aux parents par A plus B que ces droits-là ne sont pas là vraiment pour dérouter nos camarades, mais plutôt à les orienter et à leur offrir un certain nombre de privilèges pour qu'ils puissent vraiment grandir et dans l'harmonie. Donc, il faudra avoir seulement des mécanismes d'harmonisation de ces droits et qu'on appelle de ces conventions qui ont été ratifiées par notre pays et l'harmoniser vraiment avec notre propre tradition et qu'on appelle et aller de l'avant.
Alors, Francis Zako, ici au Mali, certains néophytes qualifient le Parlement de d'une chambre qui permet aux enfants d'être un peu trop zélés. Est-ce que c'est votre avis et qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes?
Alors, en termes de zélés, je ne sais pas sur quelle base ils peuvent
donner trop de pouvoir aux enfants.
Voilà. Oui, donner trop de pouvoir, mais ce qui se justifie, je crois que ce n'est même pas discutable, le droit à la participation des enfants auxquels se sont engagés plusieurs pays en ratifiant la Convention, est un droit au même titre que le droit à une éducation, à une santé, à une alimentation de qualité. Les enfants sont des êtres au même titre que les adultes. Certes, ils sont encore fragiles et vulnérables du point de vue de leur âge et de leur croissance, mais dès que la possibilité leur est donnée, il faut laisser les enfants s'exprimer. Naturellement, cela ne veut pas dire qu'il faut succomber aux caprices des enfants. Zélé, je ne pense pas. Je crois qu'on a la chance d'avoir un parlement au Mali responsable et dynamique. Je viens et j'ai fait des pays où j'ai été aussi en contact avec les questions du parlement des enfants. Je crois que c'est une chance qu'on a ici. Des enfants qui sont éveillés, qui savent ce qu'ils veulent et sur lesquels on peut construire. Prendre l'opportunité et le courage de s'adresser à des adultes pour dire ce qu'on pense, je crois qu'on peut être fier de nos enfants au Mali. Tuer l'expression des enfants, c'est tuer l'avenir. C'est continuer avec des choses visibles, vécues chaque jour, sur lesquelles personne ne parlera mieux que les enfants. Alors, le point de vue de l'UNICEF, là-dessus, il n'est pas un point de vue à faire. On n'est pas là pour juger sur le Parlement. Il est bon, il est zélé ou pas. Je crois que ce qui devrait nous intéresser, est-ce que au Mali, on a l'opportunité de donner aux enfants la possibilité de s'exprimer pour mettre le point sur les questions clés et sur les questions brûlantes qui les concernent tous les jours. Naturellement, cela va nécessiter un appui, cela va nécessiter un cadrage. Il ne faut pas, bien sûr, laisser l'occasion aux enfants d'occulter un certain principe, un certain nombre de principes de vie en société, notamment le respect vis-à-vis des parents, le respect vis-à-vis des aînés, des décideurs, etc. Et ça, cela n'est pas dit dans le principe de la participation tel que suggéré dans la Convention relative aux droits des enfants. Et c'est tout ce travail-là que l'UNICEF est en train de faire. C'est vrai qu'il y a un choc. On n'est pas habitué à laisser nos enfants nous donner leurs idées. Le choc, on devra le supporter. Il va être douloureux, mais si on espère un Mali avec une génération qui soit épanouie, qui sait ce qu'elle veut et qui peut avoir l'opportunité de l'exprimer, souffrons que les enfants du Parlement du Mali soient entre griffes zélés et donnons-leur la chance de se recadrer là où on pense qu'ils sont en train de passer à côté du mandat qui est le leur.
Alors, vous avez l'occasion de côtoyer beaucoup d'enfants du monde. Aujourd'hui, le problème qui s'oppose au Mali, c'est qu'il y a une baisse de niveau au niveau de l'école. En voyant ces enfants, vous qui les côtoyez tous les jours, les enfants du Parlement du Mali, comment est-ce que vous pouvez les classer parmi ceux que vous avez côtoyés dans le monde ?
Alors, je le disais tantôt, c'est vrai, quelques-uns dans le monde, mais pas beaucoup. Mais dans tous les cas, je crois que dans la sous-région, le Parlement des enfants est quand même reconnu comme une référence en termes de structuration, en termes de participation, en termes d'activité. C'est vraiment, ils sont actifs. Ils ont montré l'exemple pendant plusieurs réunions régionales qui se sont déroulées. La question du niveau est une question cruciale que vous posez. Et conscient de ça, l'UNICEF est en train de réfléchir sur quelle stratégie adopter pour maintenir ce niveau. Je crois que l'une des stratégies qui nous est venue comme ça au vif, c'est de pouvoir faire bénéficier aux différents parlements actuels, mais aussi qui vont se succéder, les anciens membres, ceux qui ont occupé des postes influents, des postes responsables et qui ont fait leurs preuves pour partager leur expérience, pour vraiment donner un encadrement technique de sorte à ce que le niveau soit maintenu. Naturellement, il y a tout le travail qu'il faut faire et de la part du gouvernement aussi et de la part de l'UNICEF de donner l'encadrement nécessaire. On ne peut pas parler de participation, encore moins de parlement des enfants, sans adultes. Sans encadrement d'adultes, cette notion n'est qu'une notion vaine et dans laquelle, malheureusement, on fait ce qu'on appelle du saupoudrage ou alors de la manipulation des enfants, mais qui n'est pas vraiment de la participation des enfants.
Alors, que dites-vous, Lala Wangara, quand le droit des enfants se bute à cette barrière sociale qu'est la culture? Qu'est-ce que vous pensez de cette barrière sociale qui fait que le droit des enfants n'est pas assez respecté dans la société? Qu'est-ce que vous dites aux parents aujourd'hui qui ne comprennent toujours pas que les enfants ont des droits?
Je dis à ces parents que les enfants ont bien sûr des droits. Et d'essayer de voir si ces mêmes parents avaient été confrontés à certaines sortes de violations des droits de l'enfant, ils n'auraient pas eu l'opportunité d'avoir des foyers stables avec des enfants éveillés d'esprit comme ça et de permettre ces mêmes chances-là aux enfants. Et il y a certainement des parents qui n'ont pas eu ces mêmes chances-là. Mais ces parents, en fonction de l'expérience qu'ils ont vécue dans leur enfance, doivent se dire que tout ce que je fais à cet enfant-là va lui porter atteinte parce que j'ai été enfant et je sais ce que ça fait en tant qu'enfant qu'on amène une certaine violation à mes droits. Je dis à ses parents que les temps ont changé, les moments ont changé. Ce sont les mêmes mentalités, ce sont les mêmes coutumes dans les mêmes pays, mais il faut essayer d'aller de pair avec le développement. Et le développement, tout le monde sait, prend sa source dans la couche infantile.
Alors Abdoulaye Cissé, qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on a des droits
En tant qu'enfant, ça fait vraiment du bien de savoir qu'on a des droits, qu'il y a des textes vraiment élaborés, que ce soit de façon nationale ou internationale, qui nous protègent. Mais et quand on a certes des droits, mais il faudra toujours savoir que nos droits s'accompagnent vraiment des devoirs. Donc c'est ce qu'on, nous au Parlement, c'est cette culture qu'on arrive vraiment à partager avec nos camarades, de s'acquitter vraiment de nos devoirs afin de pouvoir vraiment récupérer et réclamer nos droits.
Alors, est-ce que vous demandez aux parents de respecter ces droits-là à la maison?
Oui, il y a une manière. Donc, c'est pour cela qu'on dit vraiment de favoriser la communication parents-enfants.
Est-ce que vous le faites à la maison?
Oui, moi, chez moi, personnellement, je discute des droits des enfants avec mon papa et c'est vraiment lui qui m'encourage à entreprendre ces activités.
Là. Est-ce que papa comprend souvent?
Oui, parfois il comprend, mais parfois pas. Hein. Il y a certaines questions, il est catégorique là-dessus.
Comme quoi?
Je ne sais pas, négocier certaines décisions par rapport à l'école. Mm-hmm. Quelle école est-ce que tu fais? Il choisit ce genre de truc, il choisit toujours le meilleur. Ou, je ne sais pas, il y a certaines questions où il est catégorique là-dessus. Il sait que c'est déjà pour mon bien. Et au fil du temps, je me rends compte que c'était pour mon bien. Et je dis aux autres enfants aussi que c'est vrai qu'il faut toujours donner son avis par rapport à ce qui nous concerne. Mais parfois, d'essayer de comprendre aussi que les parents font beaucoup de choses pour notre bien. Les parents savent ce qui est bien pour nous. Moi, personnellement, mon père, il est éveillé d'esprit. Il nous comprend, il nous donne toujours cette latitude-là de discuter avec nous, certes pas changer d'avis ou adopter, faire directement ce qu'on dit, mais il prend le temps de nous écouter.
Espérons que tous les papas soient comme le tien. Alors, avec vous, c'est fini. Nous, Francis Zacco de l'UNICEF, nous terminons avec vous. Quel est votre dernier mot pour clore ce débat?
Dernier mot, d'abord un mot encore de remerciement. Je crois que c'est jamais assez de trouver l'opportunité pour aborder les questions de protection de l'enfant, mais surtout de partager également un certain nombre de préoccupations et d'interpellations vis-à-vis des populations, mais également des décideurs. Le dernier mot, c'est vraiment, et comme je l'ai dit, c'est vraiment de réitérer cet engagement d'inscrire vraiment les questions de protection au centre des débats. Et c'est la seule façon, en martelant les esprits, en arrivant à un processus de conscientisation, que chacun à son niveau communautaire, décisionnel, aussi bien au niveau des organisations, que nous pourrons donner, faire avancer les choses.
Merci beaucoup Francis Zacco. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous sommes à la fin de cette émission qui vous a été présentée par Famoussa Sidibé. Nous parlions de l'état des lieux du respect des droits des enfants. Voici les trois volets que nous avons évoqués dans ce débat. Le point sur le respect du droit des enfants, ensuite le travail des enfants et pour finir le droit des enfants et le poids de la tradition. Nos invités, Lala Ouangara, présidente du Parlement des enfants du Mali, Francis Zacco, spécialiste protection enfants à l'UNICEF. Un autre parlementaire, Abdoulaye Cissé, premier vice-président du Parlement des enfants. Merci à vous d'avoir été des nôtres et d'avoir bien voulu participer à cette émission. Petit Ndiara était à la technique. Ousmane Diadé Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halou Dmoundi.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.